Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir quelqu'un qui dont la vie a quand même été un peu chamboulée, la vie professionnelle dans les derniers jours avec le départ de M. Legault. C'est notre députée et ministre Catherine Champagne-Jordan. Bonjour, Catherine.
Oui, bonjour, Monsieur Harrison. C'est un
Oui.
plaisir d'être reçu à votre antenne.
C'est un plaisir qui est très partagé. Catherine, vous savez, on s'est entendu un peu sur le motif de cette entrevue-là lorsque vous êtes passé à Lille en décembre. Je disais, j'aimerais faire une entrevue où on apprend à vous connaître et surtout connaître l'expérience que vous vivez depuis 3 ans. Et puis, c'est ajouté à cette expérience-là ce qu'on a vécu la semaine dernière, le départ qui nous a semblé soudain du premier ministre François Legault. Vous avez été étonné? Quelle était votre réaction quand vous avez appris ça?
Ben, Monsieur Legault, Monsieur le Premier ministre, a surpris tout le monde mercredi matin, y compris son Conseil des ministres et ses députés. On a appris qu'il y avait une conférence de presse, un point de presse mercredi en fin d'avant-midi à 11 h. On a appris ça le matin, quelque chose de très solennel au bâtiment de remercie, qui est le bâtiment du premier ministre du Québec, où sont installés ses bureaux. Alors, on s'est dit que c'était quelque chose de sérieux. On a commencé à faire des déductions. Certainement, pour ma part, j'ai commencé à faire ça avec les circonstances. Ça s'est en fait confirmé que M. Legault quittait ses fonctions lors de son point de presse. M. Legault, c'est quelqu'un qui était prêt à faire la course, de solliciter un troisième mandat auprès des Québécois, des Québécoises. Il a la fougue encore pour le faire. C'est un politicien qui est amoureux aussi des Québécois, du Québec, a à cœur les intérêts du Québec et qui aurait pu continuer encore certainement. Cependant, il l'a bien dit, il a écouté les Québécois. Les Québécois n'écoutaient plus François Legault. Alors, pour le bien de son parti, il a pris la difficile décision de laisser les rênes à quelqu'un d'autre, à son futur ou à sa future successeur. Le temps va nous le dira, mais c'était une décision d'homme d'État, une décision courageuse. Et moi, j'appréciais et j'apprécie beaucoup M. Legault. Il est encore en poste là, pour quelques semaines, quelques mois, le temps qu'on connaisse son successeur et on continue notre travail ensemble. Il est toujours premier ministre et c'est un plaisir de travailler avec lui.
Il reste que ça a été un personnage important dans votre vie parce que vous avez décidé de vous présenter aux élections, il était chef, et il a fait de vous une ministre dès le départ, alors qu'il y avait bien plus de candidats, élus candidates aussi, donc députés qu'il y avait de poste.
Absolument. Je lui ai dit ça, c'est ce que je lui ai dit, parce qu'on a eu un conseil des ministres après son annonce, hein. Les choses continuent. Le travail doit se faire, puis on gouverne le Québec. Alors, il faut agir en conséquence. Et j'ai eu à faire une intervention sur un dossier, comme mes autres collègues, et on prenait tous un petit moment pour le remercier. Et c'est ce que je lui ai rappelé. Je lui ai dit, vous aurez été celui-là qui m'aura me fait me commettre, en fait, publiquement sur mes idées, mes allégeances politiques, et qui m'aura surtout fait faire le grand saut en politique pour représenter ma région, une région dont je suis profondément amoureuse, pour laquelle je suis maintenant totalement investie. Je l'ai été à d'autres niveaux, ailleurs dans ma carrière, pour toujours la faire avancer, la faire progresser. Mais là, c'est une implication qui est totale. Je l'en remercierai toujours de m'avoir laissé la chance de porter, représenter et défendre nos réalités là où les décisions se prennent, c'est-à-dire à Québec, au Conseil des ministres.
Cela dit, plongeons donc dans cette aventure de 3 ans qui est la vôtre. Qu'est-ce qui a déclenché là, le oui dans votre cas? Ça s'est fait comment là, cette action de plonger en politique?
Ah, c'est le résultat de plusieurs décisions au fil de ma carrière. Moi, tout d'abord, je tiens à le dire parce que plusieurs jeunes peuvent vivre ça quand on vient d'une région comme la nôtre. Moi, quand je suis partie aux études, je m'étais dit, je ne reviendrai plus jamais sur la Côte-Nord, je veux vivre autre chose. Et je suis revenue. Enfin, il faut jamais dire jamais. Je suis revenue parce que mes racines sont ici, parce que j'appartiens à la Côte-Nord et que c'est une région merveilleuse. Une des meilleures décisions de ma vie, ça aura été de revenir m'installer sur la Côte-Nord à la suite de ma diplomation en communication sociale à l'Université de Trois-Rivières. Maintenant, quand je suis revenue, j'ai œuvré dans ma communauté au niveau des communications et des affaires publiques et des relations avec le gouvernement. Ensuite de ça, j'ai fait le saut pour travailler pour un projet de développement développement de ressources naturelles, qui était le projet Mine-Arnaud, parce que c'est une part importante de notre économie. Je voulais comprendre les tenants et aboutissants de cette industrie-là, de ce secteur-là, si important pour notre économie. Par la suite, je suis allée toucher un petit peu à de l'administration et de la gestion aux Galeries montagnaises à Sept-Îles pour l'immobilière montagnaise, qui est le bras immobilier de la communauté de Ouachat-Mal'Youtenam, encore une fois. Mais je m'ennuyais du contact avec les gens. Je m'ennuyais de cette relation-là entre un milieu et une entreprise ou une organisation. Alors, je suis retournée aux ressources naturelles pour le projet Apouit quelques mois. Et là, c'est là que le téléphone a sonné. Le téléphone a sonné pour me faire part de cette possibilité-là que je puisse porter les couleurs de la coalition Avenir Québec aux élections provinciales de 2022. Bien sûr, c'est pas la première fois que j'étais approchée par un parti, par un niveau politique aussi. J'ai des gens qui sont venus me solliciter pour le municipal, pour le fédéral aussi. C'était toujours quelque chose que j'avais repoussé, jamais écarté, mais repoussé, en me disant j'ai d'autres choses à accomplir et j'avais aussi des jeunes enfants. Alors, dans l'équation, moi, je veux dire, j'habite pas à Québec avec ma famille, puis je rentre pas chez moi tous les soirs si je suis en politique. Alors, c'est important dans l'équation. Je dirais que cet appel-là, ben, ça en a pris plusieurs aussi, parce que cette réévaluation-là, de dire est-ce que j'ai tout en main pour bien représenter la région? Est-ce que d'un point de vue personnel, tout est aligné pour que je puisse le faire? Ça a été une longue réflexion et j'ai été sollicitée quelques fois et ben, il y a une fois, ça a été la bonne, ça a été la bonne et j'ai pris la décision de porter les couleurs de la Coalition Avenir Québec pour l'équipe de François Legault parce que finalement, après mûre, mûre, mûre réflexion, je peux confirmer que c'est une mûre réflexion. J'aurais pris la décision de d'étendre mon implication parce que c'était rendu temps, je pense, le moment. Les astres étaient alignés pour que je puisse bien représenter la région, mais continuer aussi à m'impliquer de manière plus large auprès de celle-ci.
Donc, vous êtes une recrue politique malgré ce parcours-là et vous êtes nommé ministre dès le départ. Est-ce que ça vous a étonné d'être ministre et non pas d'être sur les bancs pendant un an ou deux pour gagner de l'expérience?
Ben écoutez, moi, je me suis présentée comme députée de Duplessis. C'est ma première responsabilité et c'est pour cette responsabilité-là que j'ai fait la course pour représenter le comté de Duplessis. Flattée, oui, mais j'étais très heureuse d'obtenir la confiance du premier ministre en me voyant confier le portefeuille de l'emploi et ensuite celui de la région, parce que pour être ministre régional, il faut être ministre, avoir un portefeuille dans un des ministères. Et me voir confier les responsabilités de la région. C'était pas pour ça que j'allais faire ça, mais j'étais prête à relever les défis, les responsabilités, même si elle avait été à un autre niveau. On sait, dans le gouvernement, il y a des whips, il y a des leaders, il y a des, bon, il peut y avoir, il y a d'autres responsabilités aussi très importantes que celles de ministre. Alors, j'étais prête à relever tous les défis qu'on allait me confier.
Physiquement, là, si on va dans les officines pour qu'on se fasse une idée, nous, vous l'avez appris comment? Est-ce que c'est le premier ministre qui vous appelle, qui vous convie à son bureau? Physiquement, là, la réalité, quand on vous nomme ministre, ça se passe comment cette journée-là pour vous, quand vous l'apprenez?
Moi, comment j'ai vécu ça à la veille de la nomination ou les jours précédant la nomination là, du Conseil des ministres, les députés s'étaient fait dire, ben gardez vos téléphones ouverts parce que telle journée, mettons une journée avant l'assermentation des ministres, si vous avez à avoir un téléphone, c'est là que ça va se faire. Alors, on va qu'à nos occupations, mais on a notre téléphone dans notre main cette journée-là.
On s'assure
Alors,
qu'il y
le
a de la
téléphone.
charge.
Ben absolument, on veut pas manquer de charge cette journée-là. Alors, le téléphone a sonné. On m'a demandé de me présenter à un endroit précis dans un bureau, sans plus d'indications. Et
OK.
là, ben comment ça se passe? C'est qu'on rencontre le premier ministre, sa garde rapprochée, son bureau, son directeur de cabinet et tout ça. Et là, on se voit confier des responsabilités. Alors, c'est comme ça que ça se passe. C'est là que débute l'aventure parce qu'on rentre dans ce bureau-là, on est député, on sort de ce bureau-là, on est pratiquement ministre. Et il nous reste pas beaucoup de temps avant l'assermentation. C'est une question d'heure et ensuite de ça, le travail commence maintenant.
Quand vous sortez du bureau, fermez la porte, ça va être au tour de quelqu'un d'autre. Comment vous sentez-vous? C'est quoi qui se passe en dedans?
Je dois vous dire que les attentes avant de, tu sais, quand on se rend au lieu où on nous attend, cette attente-là est extrêmement longue parce que si on nous a sollicité quelques jours avant sur nos intérêts, À partir de ce moment-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va se faire confier et quel sera le rôle, parce que ça peut être d'autres responsabilités aussi, là. Il y a des présidents de caucus, il y a des... Oh, donc, on n'a aucune indication. Les minutes sont longues, je dois dire, et en sortant de là, ben, c'est sûr qu'on prend la pleine mesure d'heure en heure, mais rapidement, rapidement, on est contacté. En fait, en sortant du bureau du premier ministre, on se fait expliquer ce qu'il en est pour la sécurité. Vous savez, au Québec, les ministres ont des gardes du corps. On se fait expliquer comment ça va fonctionner. On rencontre nos directeurs de cabinet pour les nouveaux ministres à la suite de la sermentation, qui est le lendemain de cette rencontre-là. Alors, tout va vite, mais en sortant de là, on est sonné, positivement sonné. On ne sait pas tout ce qui nous attend. Pour ma part, je ne savais pas tout ce qui m'attendait. Puis c'est correct, c'est bien correct de ne pas savoir tout ce qui nous attend.
C'est
Parce
peut-être
que,
mieux.
oui, effectivement, effectivement. Je dis toujours que pour aller en politique, ça prend de la volonté, de la fougue, un petit peu d'inconscience au départ, avant de faire le saut, parce que si on sait tout ce que ça implique, et peut-être que on aura un peu plus de retenue, mais une fois qu'on y est, c'est une très belle aventure.
Catherine Champagne-Jourdain, vous êtes soudainement députée, vous êtes ministre, vous avez beau avoir été impliquée dans le domaine minier puis avoir géré de l'immobilier, là, vous arrivez soudainement, vous êtes ministre au moment même où vous venez d'être élue, vous devez apprendre le métier de députée également, de représenter votre région, comment fonctionne le gouvernement, quelles sont les règles. C'est toute une courbe d'apprentissage que vous devez connaître soudainement.
C'est pas une courbe, c'est une colonne, je vous le confirme. Parce que moi, j'arrive en poste, j'ai l'incroyable chance de faire partie de l'équipe de ministres, mais je dois apprendre ce qu'est le rôle de député, je dois apprendre ce qu'est le rôle de parlementaire. On a un travail à faire en tant que parlementaire. Je dois me familiariser avec mes fonctions de ministre régional et apprendre rapidement, être à l'aise rapidement dans mes fonctions de ministre de l'Emploi. Alors, ce n'est pas une fonction, mais quatre fonctions qu'il faut apprendre en même temps. Alors, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une courbe d'apprentissage, c'est une colonne. On
Clairement.
embarque dans un ascenseur, puis ça monte, ça monte. Heureusement, on a des gens qui nous entourent, on est bien entourés, des équipes dans les cabinets, mais il faut aussi former nos équipes pendant ce temps-là. Au moment où on accueille tout ça, on est en train de former nos équipes de bureaux de comté et on espère que les gens qu'on va solliciter vont nous répondre positivement parce qu'on a besoin d'aide, là. Le travail sur le terrain, surtout pendant aussi qu'on a une responsabilité ministérielle, ben il se fait en grande partie par nos équipes, là. On est sollicité partout, nous, à la grandeur du Québec, mais nos équipes ont un rôle primordial, considérable dans la réussite, dans les réalisations qu'on peut faire en comté.
Et puis, c'est un peu, bon, sans trop vous flatter, c'est un peu un hommage aussi à vos capacités parce que, on vous a nommé ministre alors que vous n'aviez pas encore justement appris les autres rôles dont vous me parlez là, notamment celui de parlementaire, d'apprendre aussi les mécanismes à l'interne, comment ça fonctionne au gouvernement. Vous êtes nommé ministre, mais 2 ans plus tard, vous changez de ministère. Quand vous changez de ministère, vous avez une nouvelle courbe d'apprentissage, peut-être pas sur le poste de métier, mais vous avez des nouveaux dossiers à prendre en compte. Ça vient rapidement, ils sont en cours. Comment vous faites ça, là, quand vous passez à la famille soudainement?
Bien, premièrement, encore une fois, hein, on ne le sait pas. On l'apprend quand on est convoqué à une réunion de la même sorte, avec les mêmes précautions qui sont prises encore une fois pour ne pas se croiser entre collègues et ne pas avoir d'informations privilégiées parce que, tu sais, le nouveau conseil des ministres sera annoncé en temps et lieu. Alors, j'aimerais à cette rencontre-là, on me confie ces nouvelles responsabilités-là qui sont, encore une fois, un gage de confiance parce que là, on tombe dans un ministère avec un réseau. Directement en service à la population, directement avec les familles, dans les familles et avec un plus gros aussi portefeuille. On parle d'environ le cinquième plus gros portefeuille sur 30 là, des ministères. Alors, j'ai été une fois de plus très, 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 très heureuse de recevoir ces responsabilités-là. J'étais bien à l'emploi, je tiens à le dire, mais j'étais très heureuse de me voir confier cette grande responsabilité-là. Je le compare un peu à l'entrée au secondaire. Vous savez, mon entrée dans la politique, c'est comme rentrer à la polyvalente ou à l'école secondaire. C'est une nouvelle école. Nos repères sont pas faits. On connaît pas les profs, on connaît pas les élèves nécessairement parce qu'on a quitté une autre gang d'amis à l'école. Alors, je compare ça à l'entrée au secondaire et un peu comme acclimatation. Et quand on se voit confier d'autres responsabilités, ben là, c'est comme le secondaire 2. On a nos repères. On connaît le corps professoral, par exemple. On sait qui est prof de quoi. Mais là, la matière change. Le niveau, dans mon cas, le niveau de matière a changé aussi. On se concentre sur les dossiers, sur ce qu'il y a en cours aussi. Vous savez, moi, je suis arrivée en poste à la famille. C'était le moment d'entamer la transition de ma place 05 vers le nouveau portail de services de garde qui allait attribuer les places maintenant dans les services de garde aux familles qui sont en attente. Alors, on était dans ce grand changement-là. Ensuite, on lance ça dans les prochaines semaines. Il faut s'approprier les dossiers et on va faire du terrain parce que ça faisait partie des demandes du premier ministre d'être présente en région, de pouvoir faire avancer ou répondre aux besoins en région. On a fait beaucoup dans les dernières années en famille. On a recréé à la fin de ce mandat-là plus de 44 000 nouvelles places. C'est immense. Des fois, dans les autres provinces, ils sont contents d'en avoir créé 40 des places. Nous, en 4 ans, 44 000, c'est immense ce qu'on a fait. Mais il reste encore des besoins dans certaines régions, plus ciblées. Alors, on m'a demandé d'apporter une attention spéciale à ça. On sait que je suis une régionaliste, que j'aime les régions, que j'aime m'assurer qu'on réponde aux besoins des régions. On a des projets de loi qui sont en train de se construire, hein. On reprend aussi le travail qui était en route.
Bien
Alors,
sûr.
c'est une
Allô?
question de matière, je vous dirais, rendu là. Prendre la suite, là, tu sais, assurer la continuité dans les dossiers. Mais il faut certainement se familiariser rapidement avec les groupes, les parties prenantes avec lesquelles on doit interagir, notamment pour, par exemple, ici, les réseaux de services de garde et tout ça. Il y a beaucoup d'organismes qui représentent soit des garderies privées, des garderies subventionnées, les CPE et tout ça. Alors, on doit rapidement prendre contact avec les différents représentants pour s'assurer là d'une bonne collaboration, d'une bonne communication avec ces derniers-là, toujours pour faire avancer les dossiers et faire avancer les choses dans l'intérêt des Québécois, des Québécoises. On travaille tous pour ça à la fin de la journée.
Il y a un agenda aussi. Là, vous arrivez en septembre à ce poste-là. Il reste à peu près un an hein, avant les prochaines élections. Et puis, bon, ben, on n'est pas tombé de la dernière pluie non plus. On sait qu'au printemps, on se prépare quand même pas mal en fonction des élections qui sont à venir à l'automne. Ça vous laisse peu de temps pour avoir une marque profonde sur le ministère qui est le vôtre. Comment on gère, là? Vous êtes dedans, là. Comment on gère le fait qu'on enlève l'histoire de M. Legault qui en rajoute une couche en annonçant qu'il quitte là? Vous avez un an, les sondages ne sont pas favorables au parti, vous avez ce nouveau ministère, vous vous posez peut-être vous-même des questions, savoir si vous allez vous représenter ou pas. Il y a beaucoup de légumes dans votre soupe aux légumes là, pour la dernière année. Comment on gère, comment on priorise, comment on réagit à tout ce contexte-là?
Ben écoutez, la première des choses, si j'ai l'immense honneur d'être ministre, c'est parce que je suis d'abord et avant tout la députée du Plessis. Faut jamais oublier ça. Hein? La première responsabilité qu'on a, même si on est ministre, c'est celle des gens qui nous ont élus, qui nous ont choisis et qui nous ont fait confiance. Alors, c'est la plus importante. Ensuite de ça, on va qu'aux autres, évidemment, mais il faut toujours garder ça en tête. Moi, ça a toujours ça a toujours occupé une partie importante parce que je m'étais lancée en politique d'abord et avant tout pour la région, ben pour le comté, pour nos gens, pour s'assurer qu'on puisse améliorer, et oui, les services, la qualité de vie ici, l'attractivité, qu'on puisse travailler à faire avancer le réseau de la santé, l'améliorer, tout ça. C'est tout ça qui m'a amenée en politique parce que je l'habite, ma région. Et mes enfants y habitent, ils veulent demeurer ici, eux, ils sont bien ici, ma mère est là, mes amis, les gens. Alors, c'est ça. Et c'est ça qui est extrêmement important. Pour ce qui est des prochaines élections, j'ai toujours dit que on en parle depuis l'année passée à travers les différentes entrevues. J'ai toujours dit que j'avais la volonté, l'ambition, l'énergie pour me représenter aux prochaines élections. C'est toujours le cas, même en fonction de la nouvelle qu'on a eue cette semaine. Alors, c'est toujours mon ambition parce que j'y ai pris goût à faire avancer des dossiers. Puis qu'il y en a qui me fatiguent aussi, que je veux qu'on continue à travailler, je veux continuer de travailler ces dossiers-là, puis je veux qu'on puisse être en mesure d'obtenir ce pourquoi on travaille ou obtenir d'autres réalisations. Ça, c'est extrêmement important. Alors, le focus, c'est certain, pour les prochaines élections, il est fait toujours en fonction du rôle de député, parce que c'est d'abord et avant tout ce qu'on sollicite à la population. Le privilège de les représenter. Puis on ne sait pas dans quel contexte, effectivement, ces élections-là vont se dérouler. Il peut se passer plein de choses. Est-ce que la responsabilité sera celle d'être député suite aux prochaines élections? Mais c'est d'abord et avant tout cette question-là qu'il faut se poser. Puis moi, ben, c'est ce que j'aime faire, représenter les gens de la circonscription de Duplessis à Québec, là où les décisions se prennent.
Nous comprenons bien votre message en fonction des prochaines élections. Kateri, qu'est-ce que cette vie depuis 3 ans vous a révélé? Qu'est-ce que ça vous a enseigné, révélé sur vous-même, tout ce que vous vivez ainsi depuis 3 ans?
Eh bien, écoutez, c'est une excellente question. D'abord, je peux vous dire que quand je pensais que je ne pouvais pas en faire plus dans une journée, c'est possible d'en faire plus dans une journée, d'en placer plus dans une semaine. Il faut quand même être raisonnable. Il faut être capable de prendre soin de soi. Je pense que c'est normal de douter quand on se lance dans une aventure comme ça. Est-ce que je vais faire un bon travail? Est-ce que je vais bien représenter les citoyens? Parce que moi, je leur ai dit que j'ai les capacités de les représenter. C'est ce qu'on veut faire, tous et chacun. On veut les représenter du mieux qu'on peut. Alors, j'aurais certainement appris à travers tout ça à davantage à me faire confiance aussi dans ce rôle-là. J'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup appris personnellement aussi sur cette belle et grande région-là. Vous savez, être député du Duplessis, ça m'a permis de porter un autre regard sur ma région, d'aller dans des endroits où ben des Nord-Côtiers, on va se le dire, ont pas la chance d'aller. C'est pas tous les Nord-Côtiers qui sont allés à Anticosti, par
C'est
exemple,
vrai, c'est vrai.
une région incroyable, un joyau, un diamant, je dirais, là, du qu'on a au Québec. La même chose pour la Basse-Côte-Nord, la même chose pour ce qui est de Fermont, Schefferville, puis une région. Ça m'aura appris ça m'aura permis de développer encore plus cet amour-là pour cette région-là qui est tellement différente d'un bout à l'autre, du nord au sud, d'est en ouest. Ben, ça m'aura appris aussi certainement que j'ai cette flamme-là. J'ai cette flamme-là en moi de la défendre, de bien la défendre et de bien la représenter parce que j'en suis extrêmement fière et fière des gens qui sont résilients, mais aussi ingénieux. On fait de la recherche ici. Hier, j'étais à une inauguration là, de pavillon de recherche et d'innovation au Cégep de Sept-Îles. Des grands chercheurs sont chez nous. On a Anticosti, qui est un joyau là, de l'UNESCO. On a fait des belles avancées là-bas et de grandes réalisations tout au long de ce mandat-là. Et j'aurais réussi certainement aussi, je suis très fière de ça, ma promesse électorale qui était celle de pouvoir faire en sorte qu'on construise le fameux aréna à Sept-Îles. Mais on a fait bien d'autres choses. On a lancé les travaux pour une pelletée de terre, l'école à Havre-Saint-Pierre, pardon. Les réalisations se garochent dans ma tête en ce moment. On a fait beaucoup, beaucoup. Alors, ça m'aura appris là, que quand on met les efforts et la volonté, on peut aller chercher beaucoup. Voilà.
Thierry Champagne-Jourdain, je vous remercie beaucoup pour la qualité de cet entretien, puis qu'on ait parlé, même si c'est une priorité pour vous, davantage de votre parcours que des dossiers régionaux. On pourra revenir aux dossiers régionaux d'ici l'élection, puisqu'on vous a bien entendu aujourd'hui. Puis ça, j'aimerais qu'on en reparle éventuellement. Nos auditeurs, auditrices aimeraient sans doute entendre parler de certains dossiers. Si vous en avez le temps, on refera quelque chose ensemble en cours d'hiver. Mais j'apprécie beaucoup que dans le contexte qui est le vôtre actuellement et celui de votre gouvernement et du départ de votre chef aussi, que vous ayez maintenu l'entretien prévu aujourd'hui. Merci bien et une bonne année. On peut dire ça comme ça. On est encore en janvier et dans tout le contexte que l'on connaît.
Bien, ce sera une année enivrante, effectivement. Puis ça va me faire plaisir de revenir parler des dossiers régionaux. Vous l'avez vu, ça me brûle les lèvres, comme on dit.
Ah.
Alors, ce sera un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Salutations spéciales à tous les gens, en tout cas-ci, évidemment, et les autres qui ont accès à ce contenu-là. Puis j'invite les gens à venir visiter la merveilleuse île d'Anticosti. Les infrastructures sont là pour que ça se fasse dans le meilleur des conforts. Alors, à bientôt.
C'était la députée de Duplessis, ministre de la Famille et ministre responsable de la Côte-Nord, Catherine Champagne-Jourdain. Et vous avez compris que nous allons nous reparler d'ici le printemps, je dirais, sur les dossiers régionaux en cours d'hiver, probablement mars ou avril, quelque chose comme ça, pour faire le point sur des sujets qui vous préoccupent. Cette entrevue a été réalisée grâce à l'initiative du journalisme local financée par le gouvernement du Canada.